Ce lundi 22 juin, c'était la journée du don d'organes et nous avons avec nous Chalbat Berterec. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes paroissien d'Asparin et vous avez vous-même été greffé. Vous allez nous raconter cela, puis après on parlera peut-être aussi de l'histoire des greffes, de tout ce que ça pose, le don d'organes. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà, vous, votre histoire ?
Alors oui, je vais raconter mon histoire personnelle. Donc moi j'ai été greffé en 1996 d'un rein. Alors bon, je vais rentrer dans les détails puisque c'est nécessaire. Donc je suis effectivement malade des deux reins. J'ai ce qu'on appelle une polykystose rénale, qui est une maladie génétique. Et donc à 39 ans, eh bien j'étais insuffisant rénal en voie d'être terminal. Alors oui, donc l'avantage des maladies rénales, c'est qu'il y a des solutions de suppléance, en particulier dans la dialyse, hein, donc l'épuration se faisant par une machine extérieure, au lieu d'être fait par les reins quand ceux-ci sont défaillants.
Mais ce qui est très lourd aussi à porter.
Voilà, alors j'ai eu la chance, alors j'ai été préparé pour la greffe, donc il y a ce qu'on appelle une fistule, enfin une petite opération qui consiste à connecter une artère à une veine. Bon, je rentre pas trop dans les détails. Donc j'ai été préparé par la dialyse et puis l'évolution de ma maladie a connu un certain plateau et j'étais déjà inscrit en liste de greffe. Et donc une nuit en mars 1996, j'ai été réveillé à 2h du matin, un appel de l'hôpital de Bordeaux qui me disait donc de prendre une ambulance pour être aux aurores donc à Bordeaux. Effectivement, non, on a appelé une ambulance et puis donc à 6h du matin ou 6h du matin, j'étais à l'hôpital de Bordeaux. Donc là, il y a eu quelques petits examens supplémentaires. Et puis en fin de matinée, j'étais greffé. Et puis je me suis retrouvé donc en chambre stérile, où je suis resté une semaine ou 10 jours, voilà. Et puis au bout de... Ça aurait pu être au bout de 15 jours. Pour moi, ça a été un tout petit peu plus long, je crois au bout de 3 semaines. Mais je suis rentré à la maison en pleine forme. Un peu shooté aux corticoïdes. Et j'avais qu'une seule envie, c'était de recommencer à travailler.
Donc la greffe a vraiment bien pris.
La greffe a très très bien pris de suite. Et puis ensuite, je n'ai pas eu de complications. Et donc tout ça, ça date d'il y a 30 ans.
Ouais. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a fait comme effet d'avoir l'organe d'une autre personne en vous ? Est-ce que ça donne un effet étrange ou on n'y pense pas ?
Alors il paraît que pour certaines personnes, c'est un élément qui peut être perturbant. Pour moi, non, ça l'a pas du tout été. Non, non. Par contre, je suis pas en train de dire que j'ai oublié que c'est le don d'une personne. Non, non, je sais et je m'en souviens très souvent, hein, que c'est bien un organe qui m'a été donné par une personne, par une famille.
C'était anonyme ou vous connaissez la personne ?
Alors non, les dons d'organes en France sont anonymes, c'est-à-dire que le donneur ne connaît pas son receveur, il ne sait même pas d'ailleurs où il se trouve, le receveur ne connaît rien de son donneur, il n'y a que les équipes médicales qui, au moment où c'est fait, peuvent le savoir. Mais ensuite, c'est complètement anonymisé. Enfin, c'est complètement anonymisé.
Donc, en tout cas, c'est une belle histoire.
Je ne sais pas si c'est un homme, si c'est une femme.
Ah oui. Son âge, rien. Ah ouais. En tout cas, tout s'est bien passé. Et vous êtes l'exemple que ça peut vraiment très bien se passer et vous donner une nouvelle vie.
Voilà, exactement. Alors, à l'époque, en 1996, les statistiques de survie des greffons étaient que, on appelle ça la demi-vie était de 10 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans après une greffe, à peu près, enfin, la moitié des greffons sont encore fonctionnels. Hein. Oui. Puis après, avec les progrès, la demi-vie est passée à 14 ans. Voilà. Mais elle est même de 20 ans quand le donneur est vivant. Voilà, donc il y a de très très grands progrès qui sont faits.
Ouais. Mais là, on est à 30 ans ?
Non, moi je suis à 30 ans, donc dans toutes les statistiques,
il y a des exceptions.
Il y a des exceptions, donc dans le meilleur, ça a été pour moi, puis malheureusement, il peut y avoir aussi des échecs prématurés.
Alors, est-ce que vous pouvez nous redire un peu quelle est l'histoire de la greffe ? Est-ce que ça a toujours existé ? J'imagine qu'il y a eu beaucoup de progrès de fait depuis 1996.
Alors, le problème de la greffe, c'est pas... Alors, d'abord, une petite précaution. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien. Donc là, je vais parler d'éléments de biologie, de chirurgie, alors que je n'y connais rien. Donc tout ce que je dis doit être vérifié auprès de votre médecin. Hein. Mais de ce que j'ai lu, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai compris, la difficulté des greffes n'est pas dans l'acte chirurgical. À l'époque, j'avais lu ou j'avais entendu, je ne sais pas, que pour un chirurgien faire une greffe d'un rein, c'était comme pour un particulier se lasser les chaussures. L'image est un peu osée, mais c'est pour dire que l'acte chirurgical n'est en soi, normalement, n'est pas compliqué. Il peut toujours y avoir des complications, j'imagine, mais fondamentalement, l'échec ne vient pas de l'acte chirurgical proprement dit. La difficulté est biologique. Elle vient du fait que notre corps est paramétré pour faire la différence entre ce qui est soi et ce qui est étranger. Et on sait bien que quand on se rentre une épine dans la main, de suite ça devient rouge. Pourquoi ? Bien parce que notre système immunitaire
est fait pour rejeter
ce qui est étranger. Voilà. Et un greffon, un rein, un foie, n'importe quel don d'organe venant de l'extérieur est bien sûr analysé par le corps comme un corps étranger, et le corps met en branle tout son système immunitaire pour l'attaquer et pour le rejeter. Les progrès ont été faits à deux niveaux. D'abord, il y a eu un progrès d'ordre théorique par la découverte justement du système de compatibilité et incompatibilité. Alors, tout le monde connaît le système qui concerne le sang avec le groupe sanguin A, B, O, etc. Puis on sait bien qu'il y a des groupes sanguins
compatibles ou incompatibles.
On sait bien. Eh bien, pour les cellules, il y a l'équivalent. Il y a l'équivalent qu'on appelle le système HLA, avec des degrés de compatibilité plus ou moins grands. Donc ce système a été découvert dans les années, je crois, 1950 par le professeur Dosset. Et donc ça, évidemment, ça a été une très grande avancée théorique. Donc là, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire des greffes de n'importe comment. Il fallait qu'il y ait une certaine compatibilité. Et puis le deuxième progrès très très important qui a été fait, là beaucoup plus pratique, c'était dans les années 1980, où un chercheur français aussi je crois, mais je ne me souviens pas de son nom, travaillant sur des champignons, a découvert qu'il y avait un champignon qui neutralisait l'élément qui dans le sang attaque l'étranger. voilà. Et donc ça, dans les années 80, et puis ça a donné lieu donc à des tests, etc., et un médicament qu'on appelle la cyclosporine, et qui a été mis sur le marché en 1983, je crois, et qui a été vraiment une très grande révolution, puisque là, on avait un médicament qui, très très concrètement, pouvait rendre plus compatible la rencontre organes et corps qui pouvait susciter donc une incompatibilité.
Voilà. Et ça concerne tous les organes ?
Alors, ça concerne absolument tous les organes. Oui, ça concerne tous les organes.
Il n'y a pas de greffe plus simple ? Moi, j'imagine qu'un cœur, c'est peut-être plus compliqué qu'un rein ?
Alors, en termes de... il ne faut pas que je sois trop précis. Je ne crois pas que la nature des médicaments anti-rejet soit vraiment très, très différente. Moi, j'y connais rien, mais je ne crois pas. Par contre, c'est vrai que la demi-vie des organes est différente.
Hein. D'accord.
Je crois que l'organe qui est le plus facilement compatible, ou en tout cas dont la durée de vie est la plus grande, je crois que c'est le foie. Le rein aussi, c'est pas mal. Et je crois que l'organe le plus fragile en matière de compatibilité, en matière de durabilité, je crois que c'est le poumon. Voilà. Mmh. Donc effectivement, il y a différence selon les organes.
Mmh. Alors aujourd'hui, quelle est l'ampleur de ce phénomène ? Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner pour les greffes en France ?
Alors les greffes en France, c'est de l'ordre, hein, de l'ordre de 6000 greffes par an. Mais avec une liste d'attente qui est de l'ordre de 22 000. Donc il y a 22 000 personnes qui sont en attente de greffe. Voilà, et donc 6000 greffes qui sont faites par an. Alors, donc ça implique qu'il y a des durées d'attente, hein, qui sont plus ou moins grandes. L'enjeu des durées d'attente n'est pas forcément le même. Pour le rein, par exemple, il y a des situations, enfin, il y a des mesures de suppléance avec le dialyse, avec la dialyse. Bon, pour le cœur, c'est plus délicat.
Délicat. Il y a plus d'urgence et il faut trouver un organe d'une personne qui est en mort clinique ou c'est ça qui est compliqué.
Alors
qu'un rein, on peut le donner en étant vivant.
Oui, voilà, c'est
vivant.
Ça. Alors effectivement, y a, la plupart des greffes se font à partir de dons de personnes qui sont décédées. Mais il y a certains organes qui peuvent être faits qui peuvent être donnés par des personnes vivantes. Hein. Mmh. Et quand c'est le cas, quand c'est par des personnes vivantes, ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux. Hein. Pour le rein, par exemple, la durée de demi-vie est de 20 ans quand c'est un donneur vivant, alors qu'elle n'est que de 15 ans pour un donneur décédé. Alors effectivement, mais ça c'est les médecins qui le font, hein, il faut que la personne soit évidemment décédée. Hein. Et il y a des critères pour vérifier effectivement que la personne est vraiment décédée. Et donc en France, il y a des règles très 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 précises, très sécure. D'abord, il faut que le décès soit constaté par des médecins qui ne font pas partie de l'équipe de prélèvement ou de l'équipe de transplantation. Il faut que ce soit un médecin
différent.
Hein, voilà, on veut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Hein. Et ensuite, il y a des actes de vérification de mort cérébrale. Donc, je crois que c'est un électroencéphalogramme à 4 heures de distance, je crois qu'il y en a deux. Et puis il y a aussi une vérification de la circulation du sang dans le cerveau. Enfin, il y a plusieurs actes de ce type-là à différents moments qui permettent de s'assurer qu'effectivement la personne est véritablement décédée. Mmh. Alors c'est un peu paradoxal pour les familles parce que évidemment le corps la personne est décédée. Son cerveau ne marche plus, mais évidemment le corps,
l'organe marche encore.
Le corps, il est maintenu en activité par des perfusions, par une circulation, voilà. Et donc la personne donne l'impression qu'elle est toujours vivante alors qu'elle est décédée.
C'est un véritable acte de don. On va en parler d'ailleurs en deuxième partie d'émission. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Shalbat Berterec. Et on continue sur ce sujet du don d'organes, puisque c'est la journée du don d'organes le 22 juin. Merci beaucoup.